Nous, on va sortir la grand voile et glisser sous le vent. Et vous, à quoi ressemble votre route? Vous êtes en vélo, en moto, en kayak, en train de vous réveiller ou en train de vous endormir? Dites-nous, où va-t-elle votre route? Laissez-nous un message sur le répondeur de France Inter, 01 56 40 68 68, comme Myriam, aujourd'hui, qui nous fait glisser jusqu'à Copenhague.
Un lieu qui m'a énormément émue, c'est Louisiana. C'est le musée d'art moderne de Copenhague. Quand on arrive, c'est incroyable. On avance sur un petit chemin, on découvre l'architecture absolument incroyable du musée et surtout, on continue et on arrive sur ce parc absolument somptueux avec les sculptures de Miro, une vue sur la mer Baltique, totalement incroyable. C'est sublime.
France Inter, chacun sa route.
C'est un voyage maritime, sportif et ingénieux qui nous attend. Un voyage ponctué de records, de bateaux qui volent et d'un besoin de prendre le temps. Notre invité est un skipper professionnel, un aventurier des mers. Il est l'un des navigateurs les plus connus de France, probablement du monde. Il est souvent présenté comme un prodige des mers, vainqueur du Vendée Globe. Il est le plus jeune à avoir remporté cette prestigieuse course. Il a aussi gagné la route du Rhum en 2014 et, entre autres, détient le record du monde en solitaire en 42 jours. 16 heures, 40 minutes et 35 secondes. Il est à la tête d'une structure qui s'appelle Mer Concept et il a coécrit Rêver large avec Luc Levaillant aux éditions Stock. Rêvons et prenons le large jusqu'à 15 heures sur France Inter.
Élodie Font, chacun sa route sur France Inter.
Je t'écris depuis ma chambre, depuis le mois de septembre, depuis que les choses ont changé. Je t'écris les mains qui tremblent, c'est plus facile de s'interdire de l'évoquer. Je pense à toi 1000 fois par an, j'essaie pas de faire autrement. Même s'ils me disent de laisser le temps faire ses affaires pour te garder vivante, je te raconterai l'ardente épopée de ton équipe d'hier.
Je t'écris depuis mon antre, depuis le mois de novembre, depuis que le froid s'est pointé. Après le déni vient la colère et comme je suis pas très énervé, je me dis que j'ai pas trop avancé. Mes affaires, pas mal, 1000 ans grandit, ça c'est normal et à chaque fois je réalise que... Je peux pas taper pour ses progrès, je me dis que la mort mène d'un regret, mais aussitôt j'égalise. Je ne valide pas l'absence, c'est tout le bien que je me souhaite. Te rappeler ton élégance aux gens, de faire tout pour que ça reste vivant, vivant.
Bonjour François Gavard.
Bonjour.
Merci d'être venu de la Bretagne jusqu'à nous. Pourquoi avoir choisi cette chanson de Ben Mazuet pour démarrer notre conversation?
J'avoue que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de Ben Mazuet. Mon dernier tour du monde, je l'ai beaucoup écouté, donc en 2017, fin 2017. Et on me demandait, j'ai essayé de réfléchir à des textes sur le voyage. Et c'est vrai que alors c'est des chansons qui sont magnifiques, je trouve. Enfin, en tout cas, l'écriture est, enfin, les chansons sont belles, évidemment, et l'écriture est vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que je trouve ça beau de pouvoir avoir des textes qui sont aussi forts comme ça. Et alors, c'est le voyage. Alors, cette chanson, elle fait référence à sa mère, hein, qui est décédée. C'est ce qui est forcément un peu, c'est pas très très souriant ce que je me disais justement en choisissant ce texte, et en même temps je trouve qu'il y a du positif. Elle s'appelle Vivant et je trouve que c'est super positif, et c'est un voyage aussi. C'est un voyage comme un voyage qui est forcément particulier, qui est pas facile, mais ça fait partie de la vie aussi, tout ça. Et ouais, j'aime beaucoup ce texte.
Vous disiez d'ailleurs, j'avais lu que vous écoutiez beaucoup Ben Mazuet, et vous disiez que la musique sublimait la mer quand vous étiez dessus.
Exactement, et la mer sublime la musique, et ça c'est quand même assez fabuleux. Moi j'adore. Alors je suis nul, j'ai aucun sens du rythme. Enfin je suis absolument pas musicien. Par contre j'adore écouter la musique. J'en écoute énormément tout le temps. Et c'est vrai que quand on est en mer, on est quand même dans un environnement qui est très particulier où nos sens sont en éveil, et je trouve que voilà, la musique a encore une autre dimension dès qu'on est en bateau. Et voilà, ça renforce certaines émotions, ça amène des nouvelles émotions. Enfin, ouais, j'aime beaucoup écouter la musique, et d'une manière justement en mer, et d'une manière générale même quand je me déplace, je pense à ça. Par exemple, si je suis dans un train, dans un avion, J'aime bien écouter la musique et je trouve que c'est assez propice finalement au déplacement sur la planète.
Et il y a des émotions que vous avez découvertes en écoutant de la musique sur la mer ?
Ah, je crois. En tout cas, ça a mis l'intensité dans certaines émotions. Je pense que c'est un des rôles de la musique, hein, c'est de faire sortir des émotions. On prenait un film, hein, on enlève la musique, c'est quand même moins fort. Donc la musique est un rôle très important et en mer ou à terre, hein, même en déplacement. C'est vrai qu'il y a des moments où je pense qu'il y a des débuts d'émotions qui doivent naître et je pense un bon morceau de musique à ce moment-là, ça peut faire exploser tout ça.
Et en plus, c'est léger d'amener de la musique en mer, parce que j'imagine que quand vous êtes sur un bateau, vous réfléchissez au poids de chaque chose.
Depuis quelques années, avec le numérique, ça a du bien et du moins bien, mais ça a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'avec aujourd'hui avec un téléphone, je dois avoir 22 gigas de musique sur un téléphone. Je peux faire un tour du monde entier en écoutant de la musique non-stop et en ayant des nouveaux morceaux tout le temps, avec quelques grammes de numérique. Donc c'est assez magique. En effet, aujourd'hui, on peut se déplacer dans sa poche. On peut avoir des milliers de morceaux et ça, c'est extraordinaire.
Mais est-ce que vous amenez des livres, par exemple ?
Non, par exemple, absolument pas. Et en effet, pour des contraintes de poids, pour plusieurs raisons, en course, je considère que j'ai pas le temps de lire, parce qu'en fait la musique je l'écoute depuis que je suis tout petit et je sais que par exemple quand je travaillais, je pense que j'ai vraiment commencé à écouter beaucoup de musique quand j'étais au collège, lycée, et en fait je faisais mes devoirs, je travaillais en écoutant de la musique, et du coup, alors c'est probablement justement parce que je suis tellement nul en musique que j'ai aucune capacité d'analyse de comprendre, c'est juste un environnement et ça m'aide justement même à me concentrer. C'est-à-dire que si je dois par exemple écrire quelque chose de très important, enfin si je dois me concentrer, j'écoute de la musique. C'est vraiment ma façon de fonctionner. Et donc du coup sur un bateau c'est parfait. Enfin j'écoute de la musique, ça ne m'empêche pas d'écouter aussi le bateau qui a lui une certaine mélodie et il y a des bruits à comprendre du bateau. Donc ça ne m'empêche absolument pas de faire naviguer un bateau et d'essayer de le faire avancer le plus vite possible. En revanche, par exemple, lire, ça, j'y arriverai pas. Je sais pas lire et faire du bateau en même temps. Ce qui veut pas dire qu'on peut pas lire si on est en croisière ou en plaisance. Et ça, c'est même assez magique. Et je parle de la musique, mais je pense que certains livres ont peut-être une valeur encore plus forte s'ils sont lus en mer. Par contre, ces dernières années, sur les bateaux sur lesquels j'ai pu naviguer, j'ai malheureusement pas le loisir de lire et ni le loisir de pouvoir en effet apporter du poids qui viendrait superflu sur le bateau.
François Gabart, puisque vous voyagez léger, est-ce qu'il y a quand même quelque chose que vous amenez toujours avec vous en course, au-delà de la musique ? Est-ce qu'il y a un objet où vous en avez besoin, vous avez envie que cet objet soit là ?
Non, j'ai toujours fait en sorte depuis très longtemps à essayer de... C'est tellement compliqué de faire du bateau. Vous savez, il y a des superstitions, etc. Je me suis toujours forcé à ne croire aucune superstition. Et donc, je me dis, voilà, si on commence à rendre un objet un petit peu magique, ça c'est compliqué à gérer, parce qu'il faut y penser, il faut pas l'oublier, si on l'oublie, enfin bref. Donc non, je me suis jamais essayé de dématérialiser quelque part de tout objet qui pourrait avoir. Ce qui veut pas dire qu'au final, au départ d'une course, il y a un petit quelque chose que ta femme ou tes enfants te donnent et qui prennent une importance, qui ont de l'importance, parce qu'il y a quelque chose avec ces objets-là. Par contre, se dire il faut absolument celui-là la course d'après, alors qu'on sait pas si on va le perdre d'ici là et tout.
J'aime bien l'idée de lutter contre la superstition.
Ouais, c'est mon père, je crois, qui disait ça. Un marin. Alors j'ai perdu la phrase, mais les marins sont très superstitieux. Hein, faut quand même le savoir. Et oui, ce que j'ai, c'est faut pas être superstitieux, ça porte malheur sur un bateau. C'est vrai que c'est déjà tellement compliqué de faire du bateau que si en plus on se rajoute des contraintes un peu techniques, là, ça fait beaucoup après.
François Gabart, on va remonter un peu en arrière si vous le voulez bien. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier voyage ?
Alors premier grand voyage, oui. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui voyageaient, qui avaient pas peur de voyager en France, en Europe, et surtout qui faisaient du bateau. Et donc le premier, on a depuis que je suis tout petit, je passais mes vacances d'été là sur des bateaux. Et mes parents ont eu une idée assez incroyable et extraordinaire, c'est de partir ils ont pris une année sabbatique dans leur boulot respectif et ils sont donc partis avec mes sœurs. Donc j'ai une grande sœur, une petite sœur. On est partis tous les cinq en bateau pendant un an sur l'Atlantique.
Jusqu'où?
On a traversé, donc c'est un tour assez classique hein, quand on fait du bateau en Atlantique Nord, donc jusqu'aux Antilles quoi, grosso modo. C'est on fait ça avec les vents dominants, donc on part d'Europe en général en septembre, on descend Canaries, Cap Vert, là on traverse l'Atlantique à la période à partir de novembre-décembre quand la saison des cyclones se termine, et donc ensuite Antilles, Bahamas, États-Unis. On revient ensuite par l'Atlantique Nord, Açores et retour en Europe. Ça, c'est une boucle assez classique qui se fait en un an et qui va bien avec les vents dominants. Et donc ça, j'avais six ans au départ, 7 ans à l'arrivée. Et c'est mon premier grand voyage.
C'est fou d'avoir osé faire ça avec trois enfants. Je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent d'ailleurs sans doute et qui rêvent de faire ça, mais se lancer avec trois enfants en bas âge.
Ouais, c'est pas simple parce qu'en effet on est 3, 6, 9 et je me fais la réflexion parce que j'ai aussi moi-même des enfants aujourd'hui qui ont à peu près cet âge-là du coup. Et je me dis waouh, c'était quand même sacrément courageux parce que c'était déjà pas facile à gérer à terre, mais au final je fais aussi du bateau avec eux, donc ça, c'est vrai que c'est assez magique d'être ensemble en famille sur un bateau. Et en effet, c'était pas si évident que ça, mais mes parents, alors ils faisaient du bateau, ils savaient très bien faire, mais c'était pas non plus leur métier. C'est un univers quand même très particulier. Faut s'y revenir. Là on est en 89-90 hein, il y a pas de GPS. C'est pas si simple. Enfin, la navigation est peut-être moins évidente qu'aujourd'hui. En tout cas, il faut quand même des compétences. Et puis, il y a pas Internet et il n'y a pas la communication qu'on a aujourd'hui. Donc, on part quand même beaucoup plus à l'aventure. Alors moi, évidemment, ce voyage, il m'a énormément marqué. Il a une influence sur ce que je fais aujourd'hui. Mais la plus belle leçon qu'ils ont pu nous transmettre à nous trois, c'est finalement de se dire que quand on a un rêve, une envie, parce que c'était quand même quelque chose qu'ils avaient en eux. Et ben il faut y aller, il faut essayer, et c'est pas forcément simple. Et voire même, parce que je du haut de mes 6 ans, 7 ans, et je m'en suis peut-être rendu compte après, mais dans leur entourage, l'entourage était à la fois encourageant et en même temps ils posaient beaucoup de questions. Mais est-ce que c'est vraiment raisonnable justement avec des enfants? Est-ce que il y a toujours, en fait, il y a plein de raisons de pas partir. Il y a des raisons de partir aussi, et des fois il en faut qu'une, hein, juste l'envie. Et après il y a plein de raisons de ne pas partir.
Oui, mais c'est lutter effectivement contre.
Et ils ont accepté de faire confiance à ce qu'ils avaient au plus profond d'eux et de pas forcément écouter ce qui pouvait être plus négatif autour. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que ça marche pour faire du bateau, mais ça marche évidemment dans tout projet de vie et tous les jours dans la vie.
Et vous vous souvenez quand ils vous l'ont annoncé de leurs mots?
Non, parce que là, moi, j'étais tout petit, j'avais 6 ans.
Vous avez juste suivi, quoi.
Moi, j'ai le souvenir, alors, dans les souvenirs que j'ai, parce que c'est un âge où j'ai un mélange de souvenirs réels, de souvenirs de photos vidéo. J'ai un souvenir qui a pas été photographié, mais quand on a donc acheté, mes parents ont acheté le bateau, je pense à peu près, j'irais un an avant le départ, parce que du coup, il y a quand même une préparation. Mon père est bricoleur, donc il a passé pas mal de temps à préparer le bateau. Mais je dirais, à peu près un an avant le départ, donc je devais avoir 5 ans. Je me souviens de la première visite où les parents nous ont mis dans une voiture en disant on a acheté un bateau, je sais pas comment ça se passait à l'époque, et on va visiter le bateau, quoi. Et donc on s'est retrouvés sur ce bateau, et ça, je me souviens bien. Et à l'époque, je sais même pas, à 5 ans, tu comprends vaguement que tu vas passer du temps sur ce bateau dans les mois ou années qui viennent, mais ça reste quand même très 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 flou. Mais par contre, j'ai souvenir de cette visite, et je pense que c'est le début d'un voyage pour un gamin. De toute façon, à 5 ans, tu pars sur n'importe quoi. Tout est exploration, tout est découverte, et tout est grand.
Et François Gabart, vous allez nous emmener en mer avec vous, chacun sa route, jusqu'à 15 heures avec vous, bien sûr. On va aller par-delà les océans, somewhere beyond the sea, avec d'abord Robbie Williams, un peu de jazz sur France Inter. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands, and why?
catches the ships that go sailing somewhere behind the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Just as before, happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing, sailing. No more sailing. Goodbye, farewell, my friend, no more sailing. So long, sailing, no more sailing. No more, farewell, auf Wiedersehen, adieu.
François Gabart nous fait le plaisir de naviguer avec nous jusqu'à 15h sur France Inter. Vous disiez tout à l'heure, François Gabart, il y a des sons, des bruits qui vont avec le bateau quand on est en mer. Est-ce qu'il y en a qui doivent nous alerter quand on est en mer, des sons?
Oui, mais en fait, c'est vrai que c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, quand on navigue, on pourrait penser qu'en effet, l'oreille est pas trop utilisée, mais finalement, énormément. En fait, un bateau fait un bruit, l'environnement fait du bruit, le vent, les voiles, les vagues. Il y a même, j'ai presque envie de dire, une notion de rythme un petit peu. Un bateau qui navigue dans des vagues, il y a un rythme. Et puis, à des moments, si le rythme, par exemple, se change, il y a une information à tirer de ça. Alors, des fois, c'est positif, le bateau accélère, le vent rentre et les voiles sont bien réglées. Mais voilà, il faut vraiment être à l'écoute de bateau. Alors, il y a pas vraiment de règles, mais évidemment, un changement de rythme, un bruit qui n'existait pas avant, qui arrive, il y a toujours des informations à tirer, et donc voilà, faut toujours être en alerte dans tous les sens, tous nos sens, mais l'oreille doit toujours être à l'écoute.
Imaginons, François Gabart, on est en plein milieu de l'océan, en solitaire, comme vous l'êtes la plupart du temps, on est quand même quelques centaines de milliers à nous incruster avec vous. Racontez-nous à quoi cela ressemble autour de nous, là, si on est en pleine mer.
Bah là, avec le bruit qu'on a, ça a l'air d'être assez tranquille quand même.
C'est fait exprès.
Ouais, je pense qu'on est, sur un bateau qui, j'ai envie de dire, qui pousse de l'eau. Donc là, on est bien en archimédien, on n'est pas en train de voler avec des vibrations qui sont parfois un petit peu plus dur. On peut s'imaginer en mer. Forcément, la grande bleue, dans le sens où voilà, on sort la tête du bateau, on regarde à 360 et il n'y a que du bleu. C'est quand même quelque chose d'assez fabuleux. Forcément, on regarde le ciel tout de suite parce que quand on regarde la mer, on fait un tour d'horizon et puis nous marins, on utilise le vent. Et c'est vrai que le ciel est quand même une source d'indication qui est assez intéressante. Donc on regarde le ciel, alors là on peut imaginer, là on peut vu le bruit, on peut s'imaginer rêver être dans l'Alizé, donc avec des cumulus d'Alizé, donc des petits nuages blancs, il fait donc plutôt doux et il fait chaud. On va se méfier de ces nuages-là, hein, parce qu'il y en a certains qui peuvent se développer, puis c'est ce petit rythme tranquille qu'on avait jusqu'à maintenant, on peut se retrouver un peu surpris par un vent plus fort sous un plus gros nuage. Mais voilà, l'Alizé, c'est quand même un vent qui est très régulier dans son ensemble, en tout cas de l'Afrique vers les Antilles, dans l'Atlantique Nord. C'est un vent chaud, c'est un vent qui nous amène vers les Caraïbes, donc c'est quand même assez plaisant.
Et si le vent devient plus fort?
Là, il y a presque de l'orage même. Hein. Là, ça, le vent commence. Donc là, on a tourné,
ouais,
c'est orageux. Donc ça, soit on est encore dans l'Alizé ou... On est arrivé au poteau noir. Donc il y a en effet de l'orage, il y a des gros nuages. Ce petit nuage blanc qui paraissait anodin tout à l'heure s'est développé, devient un petit peu noir, gris, noir. Et puis là, forcément, on est sur le qui-vive parce que on ne sait pas ce qui va se passer. On sait que ça peut devenir compliqué. Le vent peut rentrer d'une manière très forte, rapidement. Il peut y avoir des grains, il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir des éclairs. Donc on est
sur le qui-vive.
On est sur le qui-vive là.
Vous aimez les turbulences de la mer?
Oui, je pense, parce que je pense que si on n'aime pas la variabilité de cet élément-là, faut mieux pas faire ce métier-là. C'est quand même par définition mouvant. Ça se transforme tout le temps. C'est pas stable par nature. Et alors on peut trouver ça très anxiogène ou très difficile, ou au contraire jouer avec ces variations et aimer ces variations. Et je crois que j'aime quand quand l'environnement change en permanence. On a toujours en fait des nouvelles surprises, des nouvelles choses qui arrivent sur un bateau. Et c'est vrai que c'est ça que je trouve excitant.
Oui, il faut aimer l'imprévu quand on fait ce métier-là.
Ouais, c'est vraiment... En fait, mon métier en soi, en tant que coureur au large, ce n'est que gérer de l'imprévu, quoi. Le bateau, quand on est tout seul, alors, faut bien comprendre, le bateau est sous pilote automatique une grande partie du temps, donc on règle le bateau, tout va bien, et puis en fait, la seule chose qu'on a à gérer, c'est essayer d'anticiper, malgré tout. Si on peut pas anticiper l'imprévu, mais il faut quand même essayer de l'anticiper un maximum. Et puis après, il se passe quelque chose et il faut essayer de réagir rapidement, réparer le bateau, changer de voile, changer de trajectoire. On ne fait que gérer des nouvelles situations et de l'imprévu en permanence.
Et c'est là où ça devient compliqué, évidemment, c'est de savoir réparer chaque tout petit bout de votre bateau.
Ouais,
c'est d'avoir ce lien-là aussi avec l'objet.
Oui, forcément, faut aimer l'objet, le bateau. On crée un lien quand même qui est très très fort.
Vous lui parlez parfois?
Oui. Quand on fait de la course à l'argent solitaire, en plus on se retrouve quand même tout seul. Donc à un moment donné, je pense que n'importe quel être humain a un besoin d'échanger avec les autres. Quand on se retrouve tout seul sur un bateau, on a plus cette interaction. On peut l'avoir encore évidemment parce que sur les bateaux sur lesquels j'ai navigué, il y a quand même des connexions, des communications satellites qui sont possibles. N'empêche que ça reste beaucoup moins important que ce qu'on a l'habitude d'avoir à terre. Et donc quelque part le bateau ça devient une personne, ça devient un objet animé. Alors je sais pas comment le définir, je sais pas si c'est nécessaire de le définir, mais voilà, on a une interaction qui est très forte.
Faut se faire confiance mutuellement.
Oui, on doit faire, parce qu'en effet, il nous protège. Enfin, sans lui, on est absolument rien. On est quand même au milieu de l'océan, on n'est pas grand chose. Et si on n'avait pas
déjà avec le bateau, vous n'êtes pas grand chose.
Cette carapace, quelque part, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui nous permet de nous déplacer. Il a besoin de nous évidemment, parce que sans nous, il est rien. Et donc voilà, il y a un lien très fort, un lien qui est aussi très très charnel, dans le sens où c'est physique, quoi. Justement, on peut lui parler, mais en général, c'est quand même pas C'est plus là l'humain qui a besoin de ça. Le bateau, il en a pas forcément besoin. Par contre, le bateau, il a besoin qu'on le sente, qu'on l'écoute. On en parlait tout à l'heure, qu'on le répare, faut prendre soin de lui. Ouais, il prend soin de nous, mais faut prendre soin de lui. Et ça fait partie vraiment de notre métier, d'arriver à attiser ce lien. Et ce lien, il est d'autant plus fort quand on a eu on est parti d'un projet avec une page blanche. Enfin, ce qui a été mon cas à plusieurs reprises, c'est avoir la chance de construire un bateau, donc d'imaginer, concevoir, dessiner, construire, développer. Enfin, tout ce travail-là, en fait, on part vraiment d'une page blanche et puis on voit un bateau qui grandit, qui se construit. C'est vraiment c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est aussi quelque chose de très collectif, hein, parce que si on se retrouve tout seul sur un bateau, tout le travail qui est fait en amont, c'est quelque chose de très collectif. Et quelque part, toute l'énergie humaine qu'il y a dans un bateau, bah, quand on se retrouve tout seul sur le bateau, on la retrouve un petit peu dans le bateau. Toute l'équipe technique, hein, qui a préparé, qui a tout fait en sorte pour que le bateau fonctionne, elle est quelque part derrière le bateau, elle est dans le bateau. Et c'est vrai que du coup, je pense qu'on a cette relation qui est quand même très très forte avec le bateau quand on construit des bateaux qui sont originaux. C'est un peu moins le cas sur certaines classes de bateaux sur lesquelles j'ai pu naviguer aussi, où il y a certaines classes de bateaux, on appelle ça, on est en one design, en monospeed, donc tout le monde a le même bateau. C'est un bateau qui est construit dans une usine où ils construisent 100 bateaux, puis on est presque, on a un tirage au sort et puis on tombe sur un bateau. Alors, ce qui est très intéressant d'un point de vue sportif, hein, je remets pas ça en cause, c'est des courses passionnantes. Par contre, on a dans ces cas-là peut-être un petit peu moins de liens que quand on part d'une page blanche avec un partenaire, on dit voilà, on va construire un bateau pour telle course, et il y a des mois, des années de travail. Ça, ouais, ce bateau là il a quand même un lien très 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 fort.
Et quand vous le quittez, parce que vous faites de la voile donc depuis vos 7 ans, depuis que vous êtes revenu de ce tour de l'Atlantique avec vos parents, vous avez commencé d'ailleurs en faisant de l'optimiste champion de France d'optimiste. J'adore, parce que je me souviens de ces petits bateaux et j'aime beaucoup l'idée d'être champion de France d'optimiste. Depuis ce moment-là, à chaque fois que vous avez quitté un bateau, est-ce que ça vous avez un petit pincement au cœur quand ça s'arrête?
Ah bah oui, forcément. Alors, on a justement dans les bateaux de course et sur les grandes tours du monde ou les transatlantiques que j'ai pu faire ces dernières années, souvent quand on arrive, on a la chance d'avoir l'équipe qui est là. Et du coup, il y a une espèce de transfert où finalement le bateau justement qui était en partie dans les mains de l'équipe avant le départ de la course, on le redonne quelque part. Donc il y a une espèce de transfert. Et donc on fait confiance au bateau. Moi, je fais confiance en mon équipe. Et donc du coup, quelque part, on leur redonne la main sur le bateau. Et donc c'est difficile. Et en même temps, on sait qu'il est entre de bonnes mains. Voilà, ça c'est important. Et après, évidemment, les bateaux, parfois aussi après, juste après une course, mais à la fin d'un projet, ils peuvent être vendus. Ils peuvent naviguer avec d'autres marins. Et on suit. Moi, je suis toujours d'un œil forcément particulier les bateaux sur lesquels j'ai pu naviguer. Dans quelques mois, quand on sera au départ du Vendée Globe au Sable d'Olonne, je pense, alors on travaille avec un des marins sur le Vendée Globe, donc j'aurai mon attention technique professionnelle quelque part tournée vers le bateau Apivia de Charlie Dalin. Néanmoins, il y a un bateau donc avec Clarisse Kremer qui va naviguer sur, j'ai envie de dire, mon ancien bateau. Oui, forcément, je ferai un petit détour sur le ponton, j'irai jeter un petit œil, j'irai poser la main sur ce bateau, parce que on a vécu des choses extraordinaires et je suis content. Et ça, c'est vraiment important. C'est aussi chouette de voir que le bateau continue à naviguer, le bateau continue à faire de belles choses différemment, et ça c'est super important pour moi.
Ouais, le bateau qui continue à vivre sans vous. François Gabart, on reste avec vous jusqu'à 15h sur France Inter et on va rester sur ce doux rythme, celui du musicien et animateur de radio Jarvis Cocker dans son nouveau projet Jarvis. Voici Swanky Mods sur France Inter. Imprint upon you, you just didn't care.
even look up as the shoppers walked past. I thought I heard him saying, how about you get on this? Yeah. Well, how about you get on this? I can resist gentrification, but I cannot resist temptation. You were carrying the basket when I next caught your eye. A glint behind the clutter of a shop sort of life. Sure you could miss your appointment. I'll try not to be one more disappointment. You turned out you lived above the shop, and that's why you weren't there.
No shit, Sherlock.
It was a very small flat with a very narrow kitchen. No need for further explanation. You sat down on the work surface. Down to work on your surface. I could hardly get my breath. Toast crumbs like needles on the back of your legs. Hey, baby, well, how about you get on this? Yeah. Well, how about you get on this? Well, the crumbs left marks. You tried to brush them off. I tried to make tea, but the milk was off. And I forgot my shopping in my rush to get home. In the days of VHS and casual sex.
Sur France Inter, vous écoutez Chacun sa route. Et tous les jours, un peu après 14h30, c'est vous qui nous racontez l'un de vos voyages. Un moment ailleurs, un moment qui vous a transporté, qui a fait de vous quelqu'un d'autre peut-être. Racontez-nous le répondeur de France Inter, 01 56 40 68 68, tous les réseaux sociaux que vous voulez pour me joindre, ou la page de Chacun sa route sur le site de France Inter. Aujourd'hui, comme on savait que vous seriez avec nous, François Gabart, c'est une histoire sur l'eau, d'amour et d'eau salée. François Gabart, je vous présente Lucinda.
En janvier 2019, je quitte mon travail, je bossais dans une agence de com. Ça ne me correspondait pas vraiment et ce qui s'y passait, c'était un peu sale. J'avais besoin d'aller prendre l'air, de me retrouver dehors, dans le froid, à faire quelque chose de mes mains. Et j'ai décidé d'aller rejoindre une copine qui, elle, venait de s'associer avec un vigneron dans le Tarn, pas très loin de Gaillac. Et donc j'ai été faire du woofing, ce qu'on appelle du woofing, c'est-à-dire on va prêter main forte aux équipes d'agriculteurs contre le gîte et le couvert. Et l'hiver 2019, à côté de Gaillac, c'était assez frais. J'avais 4 épaisseurs de polaire, de sous-vêtements de ski, parce qu'on taillait la vigne. Et là, j'ai rencontré un autre woofer. C'était un garçon très sympa, on a passé des chouettes moments ensemble. Il lui avait pour projet de s'installer dans la région. Mais avant de s'installer, il retournait au Portugal, là où il avait laissé son voilier, avant de s'installer définitivement dans le Tarn. Puis il m'a proposé de partir avec lui sur le voilier pour aller aux Canaries. J'ai dit oui. Je savais pas du tout ce que ça voulait dire de naviguer. Je savais pas ce que ça voulait dire de passer 4 mois avec quelqu'un qu'on connaît pas dans un voilier. Sur le voilier, dans le voilier, à l'intérieur, j'en avais aucune idée. Et voilà comment je me suis retrouvée au mois de mai à prendre le large direction les Canaries. Je m'étais imaginé plein de choses avant de partir. J'avais même acheté une robe longue, noire, pour les apéros, sur le pont, comme ça, au coucher de soleil, hyper romantique. Et en fait, c'est pas du tout ça, la voile. Mais pas du tout. Déjà, c'est physique, c'est dur, c'est mental. Et ce que j'ai découvert sur le bateau, c'est qu'on peut pas se cacher. On est obligé d'être soi. On peut pas sortir les masques qu'on a sur la terre habituellement. Ça marche pas. Je me rappelle que la première fois où je me suis un peu retrouvée bête, il m'avait mal parlé et ça m'avait pas plu. Et du coup, j'ai été boudée à l'avant du bateau. Mais en fait, quand on est à l'avant du bateau, il faut savoir 2 choses. C'est que, 1, on peut se prendre les vagues en pleine face. Et que, 2, une fois qu'on est à l'avant du bateau, il se passe pas grand-chose, quoi, au final. Il y a le vent, il y a la mer, l'autre, il est derrière dans le cockpit. Et on se retrouve Ouais, un peu débile. Et du coup, on est obligé de parler, on est obligé de s'expliquer, on est obligé de dire ce qui va pas. J'ai eu l'impression que pour la première fois de ma vie, j'étais moi-même face à quelqu'un. Parce que moi, je sais qui je suis. Mais c'est tout petit. Et dès qu'il y a de la tension dans l'air, il faut la désamorcer, cette tension. Parce que quand on est 5 jours en pleine mer, c'est compliqué à gérer. Mais c'était plutôt un cocon. Et c'était doux. Il y avait quelque chose de doux et de libre. En fait, c'est ça, on a une certaine liberté. On se libère des conventions. Je crois que c'est ça, on se libère des conventions véritablement, parce qu'on est complètement isolé. Et après, il était temps de rentrer, parce qu'il y avait les vendanges qui nous attendaient. Donc on a vendu le bateau et on est revenu là où on s'est rencontrés. Et aujourd'hui, on fait notre vin et on travaille ensemble. Autant dire que l'expérience sur le bateau aide, je pense, pas mal à la communication et à l'entente et à la complémentarité de nos personnalités. Donc voilà, là, c'est une autre aventure sur Terre cette fois-ci, mais qui est pas moins excitante.
Lucinda, le témoignage de Lucinda. Est-ce que vous êtes déjà parti sur un coup de tête comme ça, François Gabart?
Non, parce qu'en effet, c'est vrai que je sais pas. Enfin, j'ai été embarqué, comme je le disais tout à l'heure, avec mes parents. Enfin voilà, j'ai été mis dans ce milieu-là sans vraiment savoir où j'allais, parce que j'étais un gamin. Et puis après, on part sur des envies quand même. C'est vrai que quelque part, quand on part sur des courses, elles sont. On n'est jamais vraiment prêt. Ça, c'est intéressant parce que quelque part, à n'importe quel niveau. Là, dans ce témoignage, je vois bien quelqu'un qui n'avait a priori pas fait de bateau, ou en tout cas n'était pas parti au large avant, et qui dit oui sans savoir vraiment où elle va. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'à tous les niveaux, c'est un peu pareil. La première fois que je dis je veux faire de la course au large, je sais pas si je sais faire, si je suis capable d'être tout seul sur un bateau, de ne pas dormir ou quasiment pas dormir. La première fois, je me dis, je veux faire un tour du monde et je veux faire le Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est quand même quelque chose de monstrueux, et on a beau s'entraîner, on pourrait s'entraîner toute une vie pour faire le Vendée. On n'est jamais vraiment prêt, en fait, pour faire le Vendée Globe. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce qu'en effet, il y a un petit saut dans l'inconnu. Et à un moment donné, faut juste sauter, quoi. Faut juste essayer, faut juste partir et alors, faut pas faire n'importe quoi, évidemment. Faut se préparer un minimum. Il y a quand même, parce que ça peut être aussi c'est un univers qui est extraordinaire, mais qui peut aussi être dangereux si on fait n'importe quoi. Donc, il faut quand même avoir quelques notions avant de partir. Mais faut pas se leurrer. Il y a toujours de l'imprévu. Il y a toujours un petit saut dans le vide à un moment donné.
Vous parlez du manque de sommeil, environ 3 heures par jour quand vous êtes en course, découpé en plusieurs fois. Évidemment, on imagine que la perception des choses, que le cerveau ne voit plus les choses de la même manière au bout d'un certain temps. Est-ce que chaque course, c'est aussi un voyage à l'intérieur de vous-même?
Ah bah complètement. Et dans le témoignage justement, elle disait. Fallait se parler et qu'elle se connaissait elle, et ce que je trouve intéressant, enfin moi ce que j'ai toujours trouvé très intéressant sur un bateau, c'est que finalement c'est quand même la meilleure façon de d'apprendre sur soi et d'essayer de, on pense se connaître, et puis en fait on se rend compte en naviguant, que ce soit en solitaire ou en équipage, on se rend compte que la frontière du possible autour de nous, elle évolue en fait en permanence, et ça je trouve ça assez fabuleux, parce qu'on est face à soi-même, on est face à des problèmes, on est face à des situations, et on n'a pas le choix que d'aller chercher des solutions, d'aller chercher en soi des solutions, et ça c'est quand même un exercice qui est passionnant pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre les autres si on est en équipage.
Et vous comprenez mieux vous-même après une course?
Je crois que j'ai beaucoup appris sur moi. J'ai l'impression d'avoir quelque part comme dans la vie de tous les jours. Tous les jours, on en apprend sur soi. La vie est faite pour ça, quelque part, pour comprendre qui on est et comprendre ce qu'on peut faire et comprendre les autres autour de nous et comment on peut tous interagir. Et pour moi, la course au large, c'est un peu, en fait, c'est des condensés de vie, c'est-à-dire qu'on se retrouve à
à vivre en quelques semaines ou quelques jours des choses qu'on n'aurait peut-être vécues que une fois par an dans la vie normale. Et c'est intéressant. Bah, on parlait des émotions et on parlait de l'absence de sommeil également. L'absence de sommeil, finalement, ça ne fait que renforcer aussi les émotions qu'on peut avoir. Mais on peut faire l'exercice sur un bâton, on peut faire l'exercice à terre. Hein, essayez de dormir pas pendant 3-4 jours. Vous allez bien voir, on va pleurer. Et on voit bien, même les enfants, c'est pareil, ils dorment pas, ils pleurent pour rien. Un adulte, c'est pareil. Hein, vous l'empêchez de dormir pendant plusieurs jours. Vous le mettez dans un cadre, dans une contrainte. Alors éventuellement, en ce qui me concerne ces dernières années, dans la contrainte d'une course, d'un record, etc. Ben voilà, on va s'émerveiller devant un coucher de soleil et en même temps être face à enfin voilà on a des émotions de tristesse, de bonheur, de qui sont de rage, de d'envie, enfin bref, il y a tout ça qui est en fait qui est découplé et finalement c'est quand on a ces émotions très très intenses qu'on arrive à les gérer, qu'on comprend un peu où sont nos limites, où sont notre perception, notre façon de vivre et de réagir sur le bateau. Donc on apprend tout le temps et pour moi la vie c'est des émotions. Enfin je n'imagine pas la vie, je parle pas enfin en mer, à terre, peu importe, la vie c'est des émotions et c'est une accumulation d'émotions plus ou moins fortes tout au long de sa vie. Et quand on est en mer, j'ai l'impression de vivre énormément d'émotions qui sont très extrêmes, très intenses. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir un espèce de condensé de vie en quelques semaines. Je pense que c'est, alors j'aurais pas dire ça, mais je pense que c'est pas forcément, faut pas faire ça tout le temps, hein, faire des tours du monde, on pourrait pas les faire à la suite, parce que je pense qu'on vieillirait au sens propre du terme.
C'est ce que j'allais vous dire.
Je pense pas que c'est très bon pour la santé. Ne pas dormir.
Vous prenez quelques années peut-être à chaque fois.
Ne pas dormir, c'est, enfin, a priori, je pense que pour le cerveau, c'est pas bon. Par contre, on vit, c'est comme si, pour moi, j'ai l'impression de vieillir, quoi, de, alors, et j'espère, alors je suis très positif sur la vieillesse, justement, c'est cette utopie de se dire, voilà, qu'en vieillissant, on a de la sagesse, on apprend, peut-être je me trompe, hein, mais, voilà, en tout cas, je suis pas inquiet sur le fait de vieillir aujourd'hui, en tout cas, et voilà, je rêve quelque part de vieillir et d'être plus sage, d'avoir plus d'expérience. Et je pense que sur un bateau, c'est vraiment ce qu'on vit. J'ai vraiment l'impression, si on fait un tour du monde, qu'on va vivre tellement de choses qu'on a pris 10 ans et 10 ans peut-être de fatigue et 10 ans aussi d'expérience et de choses fabuleuses.
10 ans de fatigue, François Gabart. En février dernier, vous avez devancé le coronavirus et vous avez ressenti le besoin de faire une pause d'un an. Qu'est-ce qui est le plus éprouvant dans ce métier?
L'absence de sommeil, ça reste quand même quelque chose de très particulier, hein, qui on va parce qu'en fait on dort pas ou très peu et quand on est en solitaire, en tout cas on est 24 heures sur 24 concentré sur une même sur le bateau. C'est quelque chose, on parle de sport d'endurance, c'est assez à la mode en ce moment, le trail ou ces sports d'endurance qui vont durer quelques heures, pour certains grands trails quelques jours. La course large, c'est un sport qui dure, qui peut durer pour un tour du monde, pour mon premier tour du monde, 78 jours, 42 jours pour le dernier. Il y a pas de pause, il y a pas de mi-temps, il y a pas d'entraque, il y a pas un moment où on peut dire stop pendant 3 heures, j'arrête. C'est non-stop pendant toute la durée de la course. Et ça c'est vraiment l'extrême endurance. Et alors, je suis pas expert dans d'autres domaines, mais je vais penser à l'athlétisme. Les gens qui courent des marathons, évidemment, il faut plusieurs jours ou plusieurs semaines pour récupérer d'un marathon. Je pense pour récupérer d'un tour du monde, il faut du temps. C'est parce que en fait, on
faut le digérer.
On va pas chercher, on va pas en même intensité évidemment que sur, même si on gardait dans l'univers maritime, sur un sport vélique qui va durer aux Jeux Olympiques, des manches qui vont durer quelques minutes, on va pas aussi loin en termes d'intensité. Par contre, dans la durée, on va très loin et je pense que le temps de récupération est au moins aussi long que le temps d'exposition et forcément quand on fait de la course large, on va chercher loin. Et du coup, il faut du temps pour récupérer.
Le navigateur François Gabart nous fait vibrer jusqu'à 15h dans Chacun sa route. On va écouter ensemble Sans titre, c'est le nom de ce titre de Sopico, une chanson d'amour évidemment sur France Inter.
Y'a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revu dans le checks. J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. J'ai jamais eu les pieds sur terre. Ma jeunesse était super, même si parfois j'étais déçu d'elle. On n'a rien à part la tête et le cœur. J'suis dans la boue en train de maqueter le skeu dans un concurrent qui va péter le seum. J'suis bloqué dans mes gâchites, j'essaie d'écrire un morceau de mes racines. Faut pas me déranger, j't'ai déjà dit, ton énergie de fils de pute est négative. J'ai prononcé un mot qu'il fallait pas et t'es parti. Des histoires qu'on efface comme des emojis, c'est ton ego qui parle ou tu fais des caprices. Dis-moi comment tu voudrais que je sois touché. Tu voudrais que je sois jugé, que je sois coupable. Je reste attentif si jamais quoi ou quel. Tellement d'histoires, tu comptes plus les coupables. Y'a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revu dans le checks. J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. Y'a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revu dans le checks. J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. Je vais pas révéler nos chiffres, maintenant je peux plus compter les notifs. Je te laisse écouter la mélodie. J'ai jamais trop lu les gros titres, ego je travaille et mes croquis. Le faire pour de vrai et le leitmotiv. T'es dans la ville et t'enchaînes, tu peux pas miser sans perdre. Sinon pourquoi tu t'enterres? Tu veux pas rentrer chez toi, t'aimerais prendre les voiles. T'as pas le droit, tu t'empêches. Y'a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revu dans le checks. J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. Y'a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revu dans le checks. J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. T'es dans la ville et t'enchaînes, tu peux pas miser sans perdre. Sinon pourquoi tu t'enterres? Tu peux pas rentrer chez toi, t'aimerais prendre les voiles. T'as pas le droit, tu t'empêches. Y'a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revu dans le checks. J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. T'es dans la ville et t'enchaînes, tu peux pas miser sans perdre. Sinon pourquoi tu t'enterres?
Chacun sa route.
Tu veux pas rentrer chez toi, t'aimerais prendre les voiles.
Élodie Font sur France Inter.
François Gabart, vous avez plusieurs enfants, vous le disiez tout à l'heure, deux qui sont très jeunes avec votre femme ou votre compagne, et vous avez un enfant d'une première union qui vit en Norvège. Le voyage, est-ce que c'est aussi d'aller vers lui?
Bah forcément, c'est avoir des enfants, c'est un voyage. c'est la plus folle et la plus belle des aventures que d'avoir des enfants. Avoir un enfant donc qui a une double nationalité, qui est franco-norvégien, c'est peut-être une aventure encore un peu plus folle. Et quelque part, bah moi, c'est vrai que j'ai cette chance. C'est pas facile tous les jours, forcément, d'avoir un enfant qui est trop loin de moi trop souvent. Mais c'est intéressant aussi de, bah en effet, je vais souvent en Norvège. C'est un pays que je trouve fascinant, qui est inspirant dans plein de registres. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des enfants qui nous confrontent quelque part avec nous-mêmes, et aller dans un autre pays, c'est toujours quelque chose de très enrichissant. Finalement, on se rend compte du pays d'où on vient, et on a toujours un plaisir énorme si on part loin à revenir en France, si on part sur un bateau à revenir sur la terre ferme. Et je pense que c'est important d'avoir ces petits moments où on s'écarte pour pouvoir mieux revenir.
En tout cas, on reçoit beaucoup de gens qui ont une double nationalité donc et qui font des choses formidables. Donc peut-être qu'un jour, votre fils sera là à votre place sur France Inter. François Gabart, tous les jours, toute la semaine, dans Chacun sa route, à la fin de l'émission, on fait le portrait d'une exploratrice. C'est toute la semaine la même. Et en l'occurrence, cette semaine, on parle de la vie d'Alexandra David-Neil, qui fut la première française, la première européenne même, à mettre un pied à Lhasa, la capitale spirituelle, culturelle du Tibet. Et justement, on va la retrouver aujourd'hui à Lhassa. Elle y est arrivée en février 1924. François Gabart, si vous le voulez bien, je vais vous raconter la suite de l'histoire d'Alexandra David-Nel. À Lhassa, Alexandra David-Nel et son protégé, à Furyongden, restent 2 mois. Elle tombe malade et finit par quitter la capitale spirituelle du Tibet. À la frontière, les Anglais sont forcés de constater son exploit. Exploit qui n'arrivera aux oreilles de l'Europe que quelques mois plus tard, et dès lors, elle gagne ses galons d'exploratrice. De retour en France, en 1925, 14 ans après avoir quitté son pays natal, Alexandra David-Nel devient une célébrité nationale. 2 ans plus tard, elle publie « Voyage d'une Parisienne à Lhassa » et le livre a un succès immédiat. Dans la foulée, elle s'installe à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, parce que ce n'est pas loin du bateau qu'elle peut prendre à Marseille et qu'elle sait qu'elle y sera tranquille. Elle baptise sa maison « Forteresse de la méditation ». Elle ne cessera d'y écrire toute sa vie. C'est aussi à ce moment-là qu'elle adopte légalement Yongden et qu'ensemble, ils partent faire des conférences sur l'Asie un peu partout en Europe. Nous sommes en 1937, Alexandra David-Nel a 69 ans. Elle n'en peut plus des mondanités, de ses conférences, et elle décide de repartir. Oui, de repartir vers la Chine. L'appel de l'Est, évidemment, mais Alexandra et Yongden découvrent alors une Chine en proie à de terribles maux. La guerre, la famine. Elle dit « Bien que je ne pleure jamais, il me semblait, lorsque je parcourais la ville, que les larmes allaient me venir aux yeux ». Ils ne peuvent rentrer en Europe qui, soudain, elle aussi, est en proie à une nouvelle et terrible guerre. Alors, ils marchent de nouveau en direction du Tibet et ils resteront 5 ans dans la ville tibétaine de Tansienlo. En 1941, elle apprend la mort de son mari avec qui elle avait gardé un rapport très affectueux et à qui elle écrivait beaucoup. Sa mort est un choc difficile à surmonter. La guerre passée, en 1946, les deux complices s'envolent pour Paris, puis pour Digne, cette fois pour de bon. Soudain, en 1955, Yongden décède d'une maladie foudroyante. Il a 56 ans, sa mort est d'une infinie brutalité. Elle demandera d'ailleurs qu'après sa mort, leurs cendres à tous les deux poursuivent leur route ensemble dans le lit du Gange, en Inde. C'est sans doute l'un des plus grands chocs de sa vie, peut-être sa plus grande souffrance. Cela faisait 40 ans qu'ils étaient inséparables, toujours ensemble. Alors, comment retrouver un équilibre ? Elle se répète des pensées bouddhistes, Alexandra David-Nel. Soyez à vous-même votre propre lumière. Et se plonge dans la lecture des 5000 ouvrages de sa bibliothèque et bien sûr dans l'écriture. Elle reçoit aussi dans sa demeure des hippies de passage dans la région, des admirateurs, des écrivains voyageurs bien sûr. Et elle repart à l'assaut du monde et de la vie. Après tout, tout en elle surprend. Ce n'est pas maintenant qu'elle compte s'arrêter. Alors parce que sa vie est absolument incroyable, pour une fois, il y a cette semaine 5 épisodes. La suite, donc, demain. Merci beaucoup François Gabart. Cette émission s'appelle « Chacun sa route, chacun sa route, chacun son chemin ». Quel message passer à votre voisin ?
De suivre en effet sa route. Je pense qu'on a tous un voyage à faire. Et il n'y a que nous. On peut le trouver qu'en nous. Il faut aller vraiment explorer au fond de ses tripes. Et voilà, et pas essayer de suivre le chemin des autres, pas essayer de ne pas avoir peur de faire son propre chemin, parce que c'est tous en faisant notre propre chemin qu'on arrive à faire quelque chose ensemble de bien, je pense.
Merci François Gabart.
Merci beaucoup.
Faisons tous notre propre chemin, merci. Chacun sa route, épisode 34, revenez demain. Demain, André Manoukian, que vous connaissez bien sur Inter, viendra avec son clavier nous parler de ses origines arméniennes. Et puis, on s'interrogera sur l'homme de Néandertal, qu'a-t-il à raconter de nous ? Merci à Vera Louderide, Céline Dubois, Louise Cognard, Thomas Omaro et Claire-Sophie Collet qui ont préparé cette émission. Merci aussi à la doc d'actu de Radio France et notamment cette semaine à Patricia Miura. C'est avec vous, auditeurs, que l'on se quitte, puisque tous les jours, vous nous envoyez par mail, par les réseaux sociaux ou par le répondeur de France Inter, je vous redonne le numéro 01 56 40 68 68, vous nous envoyez un souvenir musical lié à un voyage. Il ne vous reste plus qu'une semaine pour participer, alors allez-y maintenant, faites comme Tobina.
Born to be Alive de Patrick Hernandez, c'était l'été de mes 16 ans. Mes parents m'ont obligée de partir en vacances avec eux en Allemagne. Et c'était vraiment le bout de notre monde, parce que c'était pas très loin de la frontière de l'Allemagne de l'Est. C'était l'ennui total. Et voilà, je suis tombée sur une bande de motards. Eux, ils avaient cette chanson enregistrée sur un magnétocassette et bidouillaient quelque chose sur leur moto. Et on écoutait à fond cette musique. C'était super.
Je voudrais pas trahir les gens qui sont dans ce studio, mais Jean Morel, que vous allez, qui va vous accompagner là dans quelques secondes, et Lucas Valdener qui fait les infos, sont en train de danser sur Born to be Alive. Jean Morel, tout va bien, haute fidélité.
Haute fidélité, on va parler de cassettes aussi, des cassettes qu'on a retrouvées en Afrique du Sud pour découvrir un genre musical particulier des années 90 qui s'appelle le Kwaito.